Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, comme chaque jour, dans Radio Foot International. Toujours pas de dame en vue. Elle a Mistral gagnant jusqu'à mardi et m'a dit, tiens, embrasse les auditeurs pour moi, tu seras gentil. Bah voilà, c'est fait. L'Afrique, encore et toujours au cœur de l'émission du jour. Ça court après la Cannes 2025 et les tickets tombent. Attention, les derniers vont valoir cher. Des places, il y en avait 8 de prises hier. Au moment où l'on se parle, il y en a 13 de validées. 5 que des tickets quasiment attribués, sans jouer, mais c'est pas grave. Eh oui, non pas que nous en doutions, mais c'est officiel, le tenant du titre sera au Maroc, les Ivoiriens qualifiés avant même de jouer demain en Zambie. Comme les Équato-Guinéens, tickets validés avant même leur confrontation du jour face à l'Algérie, match bien bien naze, hein, que nous allons débriefer dans les minutes qui viennent. Bonjour Nabil Djellit.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Mettez donc bien votre micro.
Bonjour
là-bas,
Olivier,
là.
Bonjour à tous.
Bien bien naze, on est d'accord. Je crois que vous avez correspondu avec David Finzel pendant la rencontre pour vous dire que c'était parfait pour l'heure de la sieste.
Ah bah c'était pas fiesta, c'était siesta.
Voyage au Maroc validé aussi il y a quelques instants à distance pour le Gabon, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Au programme sinon, les matchs à enjeu tout de même, on l'espère, de demain à vendredi. Le choc au sommet du groupe I, notamment Mozambique, Mali, les deux y sont presque. Et Comore, Gambie, c'est pour des prunes ? Non, l'un et l'autre, peuvent encore y croire de jouer au pied de l'Atlas. Et c'est ce qu'on aime, ça, Patrick Juillard, non ? On est d'accord ?
Absolument. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous.
Vous, en ce moment, vous êtes qualifié tous les jours ou presque dans Radio Foot.
Je dors à RFI, mais les gens ne le savent pas.
On vous a pris une chambre chez Laurent Salerno, il est ravi de vous accueillir.
On écoute du Manu Dibango avant de se coucher, c'est très bien.
Nous évoquerons aussi le cas du Ghana au bord du gouffre au moment d'aller défier à Luanda une Angola, elle, déjà qualifiée. Ils seront peut-être déjà, eux, éliminés. Le Ghana absent de la CAN, ça vous toucherait presque autant qu'une Coupe du Monde sans Pays-Bas, Chérif Guémour, non ?
Ah oui, oui, ça serait triste à pleurer. Bonjour à tous.
Bonjour à tous. Bonjour à vous. Toutes. Pour clore cette émission, quelques mots sur Claudio Ranieri, un papy du foot, retraité 10 fois, rappelé 11, le voilà qui rempile à la Roma. Et puis nous reviendrons sur cette drôle d'évolution qui consiste à coller des influenceurs partout. Déjà qu'ils commencent à gangréner les salles et tribunes de presse. Voilà maintenant qu'en Argentine, on les fait jouer à la place des pros. Enfin jouer, on les exhibe, c'est plutôt ça. Ça pourrait être drôle si ce n'était pas ridicule. Ainsi va le foot, toujours plus circus. Et si les influenceurs sont là pour niaiser, nous pas. David Finzel est là, Laurent Salerno est là aussi, alors il n'y a plus qu'à. On est quoi, 10 mois en arrière à peu près ? On est en Côte d'Ivoire et cette chanson, cette musique, cet hymne, je pourrais même dire cette chanson, cette musique, devenue hymne en Côte d'Ivoire, le sacre des éléphants. On sait depuis hier, on n'a jamais vraiment douté hein, que le coup du marteau et des éléphants voyageraient jusqu'au Maroc, mais c'est fait. C'est fait depuis hier, les éléphants qualifiés sans jouer, en tout cas avant de jouer demain en Zambie. Ils iront au royaume chérifien défendre leur titre, soyons honnêtes donc. Pas vraiment une grande surprise, le nul hier, un partout entre Tchadiens et Sierra Leonais, a validé leur ticket. Nabil, vous me regardez du coin de l'œil, c'est logique.
Oui, oui, enfin, c'est surtout on va pas en faire des caisses non plus. L'accident, la sortie de route sur le dernier match face au Sierra Leonais qui avait été là. Qui avait été étonnant.
La seule défaite sur leurs 12 derniers matchs.
Ouais. Cette équipe qui avait déjà embêté sur des éliminatoires précédents, le Nigeria, je me souvenais d'un match incroyable.
Un
4-4. C'était Gerd Nuttrohr qui était à la tête des Super Eagles à l'époque. Bon, un accro, rien de plus. De toute façon, moi, je considère la Côte d'Ivoire comme une équipe de tournoi. Tout simplement, un peu comme l'équipe de France. C'est des équipes qui, parfois, lors des éliminatoires, peuvent donner l'impression d'être parfois un peu poussives. Mais c'est plutôt des joueurs qui aiment les matchs de gala, qui aiment les grands matchs. Donc je suis pas étonné en fait. Je vois pas de de logique, de culture de la gagne, comme certaines sélections essaient de l'instaurer. Là, ils bâtissent un nouveau projet, repartent avec d'autres joueurs. Ils auraient pu en tester sur cette séquence-là, mais il fallait se qualifier, donc ça s'est fait de manière indirecte. Donc voilà, bon, la Côte d'Ivoire sera là, au Maroc, et la Côte d'Ivoire sera logiquement parmi les favoris de la compétition.
Oui, il y en aura quelques-uns. Oui, c'est bien, évidemment, de retrouver les Ivoiriens.
Bien sûr que c'est bien. Parce que
ils sont comme des fous depuis hier. Hein. Ils se voient double titrés.
On aime toujours que le tenant défende son titre. Et même à une époque, le tenant était qualifié d'office pour l'édition suivante. Bon, ce n'est plus le cas, mais bon, ça a été une sorte de formalité. Même s'il y a eu, effectivement, comme l'a dit Nabil, ce petit contre-temps.
Oui, ils avaient trois victoires en trois matchs.
Mais
tout d'un coup, ils en perdent un.
On peut plaider, à ce stade, on peut plaider la thèse de l'accident. C'est pas une défaite alarmante, donc là, qualifié sans jouer.
Ils peuvent très bien perdre contre la Guinée équatoriale à domicile et gagner la CAN. Donc, ouais. Les accidents, ils savent en faire, et puis derrière, ça ne les empêche pas de gagner la compétition. Ah, quoi.
Bon, là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont rejouer contre la Zambie, sans pression, puisqu'ils sont déjà qualifiés. Et la Zambie, qui avait déjà semé les premiers doutes dans l'esprit de Jean-Louis Gasset lors d'un match à Ndola, où ils avaient baladé la Côte d'Ivoire, le jour de la première de Jonathan Bamba, 3-0. Donc, on va voir si la Côte d'Ivoire essaye de les tenir un peu en respect cette fois-là. La Zambie qui est un peu une bête noire pour la Côte d'Ivoire.
Rappelons la
CAN 2012.
Qui doit assurer un résultat pour se qualifier. Parce
donc
que
c'est un match qui va être intéressant.
C'est ce que j'allais dire, pas encore qualifié. Hein. Voilà, et qui aimerait l'être avant d'aller jouer en Sierra Leone hein, lors de la dernière journée. Les Sierra Leonais sont à deux longueurs pour le moment des Zambiens. Shérif Guémour, la Côte d'Ivoire, ça vous botte, ça, forcément?
Oui, bien sûr, mais j'étais pas plus inquiet que ça. Ils sont très très bien partis. Il y avait juste la petite sortie de route contre la Sierra Leone. Non, j'ai dû trouver que c'était une balade de santé.
Ça fait partie des équipes. Quand on est esthète du football comme vous, qu'on a envie de voir, voilà, c'est un football plaisant ce que nous proposait Merzfaï.
Bah, ils ont eu la petite sortie de route, mais j'ai l'impression qu'ils étaient, quand j'ai vu les premiers matchs, c'est-à-dire que des victoires avec les attaquants, caissiers, qui marquent pas mal, je me suis dit, bah, tiens, en fait, ils sont aussi habités que les Argentins depuis qu'ils sont champions du monde, c'est-à-dire il y a une légèreté.
Oui, et puis il y a de l'émulation.
Il y a de l'émulation.
Par exemple,
il y a
Sébastien Haller qui est un peu dans un creux. Oui, mais au même moment, Jean-Philippe Crasso et Oumar Diakité, eux, en équipe nationale. Et Guessant, bon, j'osais pas le dire parce qu'on va me dire que je favorise l'OGC Nice.
Non,
mais là, je parle aussi du club favori d'Olivier
et
avec
bien sûr,
Diakité. Donc, il y a des joueurs qui arrivent à hausser leur niveau. Donc, c'est très positif, quoi, cette dynamique-là.
D'accord toujours, Shérif?
Oui. Je les sens aussi habités que les Argentins et j'ai l'impression que plus grand chose ne peut leur arriver. Mais moi je n'étais pas inquiet.
Non, mais personne ne l'était vraiment. Ouais. Et Merzfaï ne l'était sans doute pas vraiment lui non plus. On se posait la question de quand même bien terminer, même si les Zambiens vont charmant vendre leur peau, qui ne sont pas encore qualifiés.
Une mauvaise équipe, en plus.
Écoute Merzfaï au micro de Mohamed Laminsi Savané cet après-midi.
On est la Côte d'Ivoire et on se doit d'aller partout pour gagner. On a loupé notre match contre la Sierra Leone. Il faut qu'on réagisse comme une grande nation du football, c'est-à-dire on a perdu le dernier match parce qu'on a fait des erreurs, parce qu'on n'a pas été bon. Mais il faut que dès le prochain match, on montre que c'était qu'un accident et qu'on va repartir de l'avant avec la victoire en Zambie. On sait que les Zambiens aussi veulent aller à la CAN, c'est normal. Donc ils vont tout faire pour remporter ce match parce qu'après ils auront une finale hein, contre la Sierra Leone au Liberia. Donc eux ils vont tout donner hein, sur ce match. Après nous on va se concentrer d'abord sur nous. On a perdu notre dernier match. Donc comme les grandes équipes ont une faculté à réagir après une défaite, nous on va vraiment là-bas pour s'occuper de nous.
Oui, c'est important. C'est important. Alors, les Zambiens, on l'a dit, bien sûr, ils veulent s'éviter cette finale en Sierra Leone. Donc, une victoire les qualifierait. Une victoire demain face à la Côte d'Ivoire. On rappelle que les Zambiens ont été éliminés au premier tour en 2024 et après avoir raté trois cannes de rang. Mais c'est une équipe qui revient. Quant aux Ivoiriens, on les attend quand même. Justement, on attend la réaction de cette grande équipe parce que il reste deux matchs à jouer et c'est important de montrer, les gars, on a fait un petit faux pas, mais on est là et bien là et on sera favorite de la prochaine CAN.
Il ne faudrait pas que le doute s'installe petit à petit dans les têtes. Et puis, comme je l'ai dit, c'est contre la Zambie, hein, une équipe qui avait fait du mal à la Côte d'Ivoire dans les mois précédant la CAN. Donc, ils veulent aussi remettre un peu, entre guillemets, l'éléphant au milieu du village, enfin, ou l'église.
Voilà pour la Côte d'Ivoire, rien à ajouter, ça n'est pas vraiment une surprise. Non, non, non. Qualifiée aussi hier soir avant même de jouer cet après-midi, la Guinée équatoriale, après un succès, vous le disiez, Chérif ?
Il y a des places à prendre, hein, parce qu'ils commencent à avoir une grosse concurrence hein, maintenant dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Ils sont tous disséminés en Europe, ils sont pratiquement tous titulaires. Il y a des places à prendre, ça c'est aussi l'un des enjeux futurs de cette équipe de Côte d'Ivoire.
On suivra ça, parce que là on est passé à la Guinée équatoriale, ouais. Après un succès, donc qualifié hier après un succès 1-0 du Liberia sur le Togo. Des éperviers au passage écartés définitivement.
Ils volent assez bas malheureusement.
La dernière CAN c'était en 2017, la prochaine ce sera au mieux en 2027, 10 ans après. Ouais. Et puis on ne voit pas grand chose de bien positif.
Non, il y avait eu des bonnes choses au CHAN il y a quelques années, mais ça n'a pas vraiment prospéré. Et c'est une équipe qui a pris un peu, malheureusement pour elle, l'habitude de ne pas se qualifier et qui est un peu engluée dans... dans ce défaitisme.
De saluer leur homme de presse, tiens, Steven Lavon, qui doit être bien triste, et on espère qu'on le croisera quand même à la prochaine CAN, mais ça ne sera pas avec les éperviers. Bref, la Guinée équatoriale, donc ouais. Qualifiée, et en début d'après-midi, à Bata, c'était à Bata ou Malabo ?
À Malabo.
À Malabo, bien sûr. Quel ennui. Sieste assurée face à une Algérie qualifiée, elle, depuis la quatrième journée. Et franchement, tranquille, 1-0-0, tout pourri. Hein. Pardon, mais il faut le dire.
Non, mais c'est absolument rien passé, quoi. Franchement, moi, je suis supporter de l'équipe d'Algérie, puis bon, pour mon travail également. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais arrêté à la mi-temps. Honnêtement, hein, c'était horriblissime. On a dû attendre la 50e minute pour voir le premier tir cadré de l'Algérie. Encore, c'était une frappe écrasée. De Mahrez, un match d'opposition, un match d'entraînement sur une pelouse indigne, un horaire indigne. À 14h, il faisait hyper chaud. La pelouse, c'est un synthétique pourri avec des billes noires. Et quand vous êtes joueur aujourd'hui, et quand on voit le nombre de blessures qu'il y a, moi j'ai vu beaucoup de joueurs se préserver du côté algérien. Aït Nouri, qui est quand même une mobilette en première ligue, qui fait des dédoublements incroyables, qui a un volume incroyable, il n'a pas dépassé le milieu de terrain. Non, mais c'est pour vous dire, en fait, l'attitude des joueurs algériens sur ce match-là. La Guinée équatoriale, elle a fait le boulot, elle a fait un petit peu tourner. Elle est invaincue sur son terrain, je crois, depuis 2017 ou 2018. Donc, ça fait 5 ans également qu'elle n'avait pas été battue. Et ce n'est pas les Algériens qui sont venus chercher ce record-là ou contester cette équipe de Guinée équatoriale. Les Algériens, ils se sont juste rassurés défensivement parce que leur précédent déplacement face au Togo avait été assez heurté. Ils avaient gagné 1-0, mais ils avaient été énormément bousculés. Ils avaient concédé beaucoup d'occasions. Là, ils n'en ont quasiment concédé aucune, juste une, effectivement, importante à la fin de la première mi-temps, où il y a un débordement sur le côté droit. Il y a Tougaï, le central de l'Espérance de Tunis, qui se trouve. Et derrière, il y a un attaquant de la Guinée qui coupe la trajectoire. Et Oukidja, le gardien du FC Metz sur sa ligne, fait une parade exceptionnelle. Pour le reste, il ne s'est absolument rien passé. Le rendez-vous qui va être intéressant du côté de l'Algérie, ça sera le prochain face au Libéria à domicile contre la JSK. Et un dernier mot, un truc à signaler, parce que parfois ça peut passer inaperçu, mais j'invite nos auditeurs à le suivre. À l'entrée en fin de match d'un jeune Algéro-Danois qui a choisi l'Algérie. Qui
s'appelle... N'auriez pas fait un petit papier dessus?
Si, j'ai fait un papier sur lui.
Mais où peut-on le lire?
Sur le site de l'équipe. Il s'appelle, parce qu'en général, les Algériens, ils piochent un peu comme les Ivoiriens, plutôt dans les Franco-Algériens, plutôt dans l'Hexagone. Et là, c'est une diaspora plus récente. C'est un jeune qui arrive du Danemark, qui s'appelle Amin Chaka, qui a fait toutes les sélections danoise, qui est un attaquant d'1m91, co-meilleur buteur de la dernière
Ligue. Un Danois, quoi.
Hein ?
Ouais, un Danois.
Un Danois, mais qui aime l'Algérie, puisque son papa est algérien.
Il ressemble plus à Poulsen qu'un attaquant algérien lambda, disons.
Mais bon, en tout cas, il a opté pour l'Algérie, donc c'est un joueur qui est probablement à suivre.
T'as été convaincu par le 3-5-2
j'ai été convaincu. Je viens d'expliquer que j'ai été convaincu par rien du tout. Donc déjà la tactique, je peux pas être convaincu. Enfin voilà, les Algériens ils ont joué à minima. Ouais, et puis je le répète encore une fois. Non,
ils ont joué à Malabo.
Et ils ont joué à minima et je le répète encore une fois. Moi je suis persuadé qu'il y a des joueurs qui jouent pas le match. C'est-à-dire que quand vous voyez les dépêches qui tombent, des ligaments croisés qui sautent dans tous les sens, quand vous arrivez sur un terrain comme ça, il est 14h, quand vous avez vos clubs de l'autre côté qui n'ont pas envie de vous voir venir en béquille. Je ne dis pas que tout le monde se gère et tout. Mm-hmm. Je suis persuadé que ça joue sur les joueurs.
Bah, je pense surtout que les deux équipes, sachant avant le coup d'envoi que ce match comptait pour du beurre, elles ont fait un non-match, en fait, tout simplement, les deux. Et en ce moment, la Guinée équatoriale est plus... l'opinion publique est plus excitée, entre guillemets, par les histoires... oui. de sex tape au sommet de l'État.
Ils font des vidéos, les joueurs, vous croyez,
que par ce match qui comptait pour, encore une fois, pour rien. Quoi. Donc,
ce sera leur troisième CAN de rang aux Équato-Guinéens. Ils étaient quart de finaliste en 2021, huitième de finaliste en Côte d'Ivoire.
Qui devient régulière.
C'est une équipe régulière, shérif, non, la Guinée équatoriale. C'est vrai qu'il y a souvent des petits problèmes, des buteurs dont on s'aperçoit que finalement, ils ne devraient pas jouer pour la Guinée équatoriale. Mais bon, c'est le football d'aujourd'hui, shérif.
Ouais, puis bon, comment
ils sont là,
je pense qu'aussi qu'ils ont profité de la chute vertigineuse du Togo.
Ah oui,
ça c'est clair dans le groupe.
Qui est dernière. Donc ouais, voilà, non, c'est en progrès, ça m'a l'air assez bien parti.
Oui, le Togo, dernier, mis à jour dans les classements. C'est-à-dire 2 points pour l'instant en 5 matchs, c'est-à-dire 2 nuls et 3 défaites, et doublé par le Liberia. C'est vraiment une chute vertigineuse. Désolé encore une fois pour les amis des éperviers. L'après Adebayor est quand même très, très, très compliqué.
Ah oui, là, c'est la grosse déception.
Je pense qu'on est au-delà. Même
Alexis
que...
Romao joue encore, je crois.
Il joue encore. Mais c'est pas le pire, attention, il est courageux.
À 40 ans en défense,
il vient. Ah, mais... Et puis surtout, ils ont raté leur match.
Ça veut dire quand même qu'il n'y a pas de relève quand vous faites jouer un type de 40 ans.
Ils ont raté leur match face à l'Algérie à domicile où ils ont eu une multitude d'occasions. Mais Kevin Dunkey, l'attaquant du cercle de Bruges, il a été d'une efficacité crasse. Et ça a
dommage
coûté tout
parce
espoir.
Qu'on les avait vus faire un bon match contre le Sénégal en éliminatoire Coupe du Monde. On se disait que quelque chose pouvait être tiré de ce match référence et ça n'a pas été le cas. Et puis il y a eu le changement de sélectionneur avec le départ de Paulo Duarte pour l'Arabie Saoudite. Darreny Bombé, l'intérim a pris un peu de temps. Peut-être qu'il lui a manqué aussi de temps pour prendre la main sur l'équipe. Et finalement, le début des éliminatoires a été mauvais. Tout s'est mal enchaîné ensuite, malheureusement.
On vous a annoncé 5 qualifiés depuis hier soir. On vient de parler de la Côte d'Ivoire et de la Guinée équatoriale. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, Ouganda et Afrique du Sud, là, en un seul match, les deux ont validé leur qualif.
La victoire du Soudan du Sud sur le Congo a fait leur bonheur. Ils joueront demain un match pour l'honneur. Mais...
On parlait hier du Congo-Brazzaville qui ne pouvait pas tomber plus bas. Si, ils peuvent encore tomber plus bas, être battus.
Et le Soudan du Sud qui progresse.
Oui, et le Soudan Sud qui est à l'époque de Stefano Cousine, sélectionneur, précédemment, avant que celui-ci parte aux Comores, on va en parler, avait déjà battu le Congo. Donc c'est pas une première pour le Congo de tomber à Juba comme ça. Donc
défaite
3-2, c'est pire que le Togo encore. Ils sont dans l'ornière.
Il y avait 2-2 à la pause, match assez plaisant, mais défaite donc pour le Congo Brazza. Et cette défaite, elle permet aux Ougandais qui accueilleront avec d'autres la prochaine CAN, enfin la CAN encore d'après, celle de 2027. Ougandais et Sud-Africains qualifiés. Shérif, là encore, on est dans du logique. C'est bien de retrouver à la CAN d'avant ceux qui vont organiser celle d'après. Déjà, ça, c'est le premier point. Ouais. Et les Cranes Ougandais. On sait que
ça en fera au moins un parce que le Kenya et la Tanzanie ils sont loin.
Kenya,
d'y être.
Il y a quand même encore une chance, mais voilà.
Non, là maintenant il va rester quand on s'appelle une lutte pour la première place, la première place symbolique. Donc c'est sûr que pour l'Ouganda, c'est bien de revenir au premier plan et surtout en qualité de futur organisateur. Puis après, pour l'Afrique du Sud,
c'est quand même la très belle surprise, une des très belles surprises d'une CAN qui ne manquait pas en Côte d'Ivoire. Les hommes d'Hugo Bross, on aime beaucoup Hugo Bross, on est très compatible avec cet homme-là.
Il y a un retour en force et ils figureront, à mon avis, parmi les outsiders de la prochaine CAN.
Demi-finaliste de la dernière CAN, tout d'un coup j'ai un vrai doute, ils avaient remporté la petite finale.
Oui.
Oui, c'est ça. Et donc, sur 3e, ils sont plus.
Sont médaillés de bronze, quoi.
Médaillés de bronze. Donc, logique de retrouver Ougandais et Sud-Africains.
Retour bienvenu d'une grande force africaine avec l'Afrique du Sud.
Oui, qui a toujours été une force en compétition de club, mais qui ne l'était plus du tout en équipe nationale. Ils reviennent, tant mieux. Ils capitalisent aussi sur le travail des Mamelodi Sundowns.
Et je suis en train de rechercher Ouganda, Afrique du Sud. C'est demain.
Demain en début d'après-midi.
À 13h, temps universel. Ça peut faire un chouette match, ça.
Ça peut faire un match au moment où les équipes vont se lâcher sans arrière-pensée. Ou ça peut faire un match où les équipes ne vont rien faire parce que tout est joué et qu'elles veulent se préserver. Donc on ne sait pas. Hein, c'est à double tranchant, à mon sens.
C'est où le match ?
Ouganda, Afrique du Sud, bah, ça doit être à Kampala, j'espère.
Ils ont été délocalisés plusieurs fois. Le stade Nelson Mandela.
S'ils organisent une CAN, ce serait bien qu'ils arrivent à
recevoir. C'est ce que j'allais dire. À 3 ans d'organiser la CAN, ce serait pas mal de jouer chez eux.
C'est une idée, quoi.
Ça vous fait rire, ça,
en fait. Non, mais ils ont l'Ouganda a plusieurs stades qui sont pas très loin d'avoir l'agrément. C'est pas le pays le plus dépourvu.
En retard, quoi. C'est lequel le plus en retard ? C'est le Kenya ?
C'est plutôt le Kenya le plus en retard. Mais par contre, le Kenya, c'est le plus en avance au niveau des infrastructures routières et hôtelières. Donc, faites vos jeux, quoi.
Pays très touristique, le Kenya.
On va y arriver.
Bon, enfin bref, on est content de trouver un futur organisateur de Cannes et de retrouver Hugo Broos. On espère qu'il sera toujours là, mais il n'y a pas de raison. Il fait bien son travail. Et
a priori, ça
travaille bien. On le disait hier, hein, Mamelodi Sundowns, c'est l'ossature. Le football sud-africain, deux clubs, marche très bien. Il n'y a aucune raison pour que les Sud-Africains ne soient pas de plus en plus dangereux.
Il n'y a qu'à la fédération que ça va un peu moins bien. Oui, mais on en a parlé hier.
Danny Jordan,
puis des joueurs
on en a parlé
de qualité,
hier,
là,
arrêté
j'ai eu la chance,
et relâché sous caution.
J'ai eu la chance de croiser à la cérémonie du Ballon d'Or Ronwen Williams, qui est sur son 44e clean sheet depuis le début de l'année. Mokoena au milieu de terrain, c'est hyper intéressant. Donc c'est une équipe agréable à avoir joué et qui ouvre le jeu. Et quand elle élimine le Maroc à la dernière CAN, c'est tout sauf un hold-up. Elle élimine le Maroc parce qu'elle joue mieux que le Maroc.
C'est marrant parce que Ronwen Williams, de retour chez lui, a dit qu'à la cérémonie du Ballon d'Or, il avait eu la chance de croiser Nabil Djellit.
Bah, j'ai la photo, je pourrais la fournir à David Fizel qui pourra la poster sur le groupe Facebook de Radio Foot International. J'ai les preuves.
Le dernier qualifié, en tout cas pour le moment, encore une fois au moment où l'on se parle, c'est le Gabon qui profite de la victoire du Lesotho sur la République centrafricaine, la RCA, 1-0. Voilà, dans ce groupe, le Maroc était qualifié.
Avec une place, enfin, donc c'était pas évident.
Le Maroc, on rappelle, 4 sur 4, hein, 4 matchs, 4 victoires avant d'affronter le Gabon demain, 14 buts marqués, un seul encaissé. Tout va bien pour le Maroc.
Et pareillement, le match entre le Maroc et le Gabon va être un match un peu de gala, quoi.
Mais en même temps, c'est bien pour les Gabonais de montrer que...
Ça sera comme un match amical.
Face à un des favoris, de évidemment, au moins autant que la Côte d'Ivoire, le Maroc sera favori chez lui dans un peu plus d'un an. Ouais. C'est pas mal, le Gabon qui était...
Favori, où ça devient intéressant, c'est comme pour la Côte d'Ivoire, c'est l'émulation au sein de cette équipe du Maroc, parce qu'il y a... Je dis pas qu'on est en fin de cycle, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a une nouvelle génération qui arrive par rapport à la génération qui a fait la Coupe du Monde 2022. Je pense par exemple à Ben Seguir.
Ezalzouli, Ben Seguir.
Voilà, c'est ça. Il y a toujours des enjeux.
Là, en plus, il y a c'est le deuxième rassemblement sans Ziyech, qui est pourtant revenu de blessure.
Ouais. Enfin, qui joue pas au club.
Qui joue pas, mais en d'autres temps, il aurait quand même été convoqué. Là, je pense que Regragui pense à l'avenir et on va voir notamment Brahim Diaz, qui avait fait des bonnes choses au printemps lors de ses premières sélections, on va peut-être le revoir parce que ce qu'il fait au Real, dans un Real un peu déprimé, quand il a un peu de temps de jeu, c'est plutôt intéressant.
C'est très intéressant. Puis il y a Amrabat aussi qui est en...
Voilà, qui s'est relancé là.
Qui s'est relancé, voilà, exactement.
Je voudrais quand même qu'on dise quelques mots sur le Gabon, beaucoup de hauts et de bas, quart de finale en 2010. Et puis ensuite, ils ont été non qualifiés ou virés au premier tour.
CAN au Cameroun.
Huitième de finale, effectivement, en 2021 au Cameroun. Ils n'étaient pas là en 2024. Quand on parle de haut et de bas, on en est là.
Ça a toujours été un peu comme
ça. C'est bien de les retrouver, là, c'est quand même une place forte du football d'Afrique centrale.
Ça fait partie du paysage du football
africain.
Et là, il faut saluer le travail de Thierry Mouyouma, le nouveau sélectionneur, un jeune technicien qui tranche un peu avec les... Ils avaient tendance à prendre un peu des vieux barbons comme Camacho, par exemple, pour être sélectionneur. Et là, on a retrouvé avec lui un technicien local, plus inspiré, plus novateur dans ses méthodes et surtout... très strict sur la discipline, et c'est pour ça qu'il se passe de Aaron Boupenza. C'est pour ça qu'il y a eu un recadrage de Aubameyang avant son retour. Et finalement, ça semble payer. Et puis surtout, il bénéficie de joueurs inspirés comme Bouanga ou Alevina, qu'on voit faire de bonnes choses en Ligue 1 à Angers. Donc, c'est plutôt sympa à suivre.
Ouais, puis c'était une équipe qui nous avait bien emballé au Cameroun, encore une fois.
Qu'elle avait eu
c'était une grosse déception de ne pas les voir en Côte d'Ivoire.
Ouais, elle nous a emballé parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que y a des joueurs stars qui n'ont pas répondu présent pour différentes raisons. Et ensuite, on a senti un groupe se fédérer avec peut-être moins de qualité.
Quelques
têtes qui ont émergé comme Boupenza, mais qui ne sera pas là ce coup-ci, mais c'est vrai que c'était une équipe agréable. Et quand on cite les noms, on sent que c'est un peu une équipe quand même déséquilibrée, parce qu'on sent qu'il y a plus de qualité devant.
Ouais. Même si Lemina est revenu.
Que derrière. Alors Lemina, il est important.
Qui est un super milieu très sous-estimé. Hein.
Ouais, c'est un des meilleurs milieux africains.
Box de première ligue. Hein,
avec Wolverhampton. Donc, moi, je suis curieux de les voir face au Maroc, parce qu'il y a un match de gala à jouer quand même. Et quand vous êtes aujourd'hui... n'importe quelle sélection africaine, quand elle joue le Maroc...
Oui, on veut se les faire, entre guillemets.
Voilà, on veut les faire tomber, comme on voulait faire tomber l'Algérie à un moment, le Sénégal. Il y a un peu cet esprit-là, même si le Maroc n'a pas gagné la CAN. Ils ont été demi-finalistes à la Coupe du Monde. Mais c'est une manière de s'étalonner.
Le test.
Exactement.
Ouais.
Okay. Et ben voilà ce qu'on pouvait dire sur le Gabon. On avance par rapport à nos matchs à enjeu de demain. Et on va parler de...
La Jamaïque.
Alors,
la Jamaïque.
La Jamaïque. Il va sortir, lui, hein, Judith, hein. C'est pas possible.
Vous voulez parler du Ghana ?
Mais non, du Mali, ça c'est le Mali ! Oh là
c'est
là,
les mêmes
là,
couleurs,
là.
En tout cas, du drapeau.
Parmi les équipes dont on attend la qualification, donc dès ce vendredi, le Mali, bien sûr, choque au sommet du groupe I. Les Aigles sont à Maputo depuis quelques jours déjà, pour se mesurer au Mozambique. Ce sont les deux équipes de tête à égalité, seuls les Bissau-Guinéens qui joueront face au Eswatini demain également peuvent espérer contrecarrer les plans mozambicains ou maliens. Ils sont à 4 longueurs, donc c'est mathématiquement encore jouable. On écoute Tom Sanfitz, le sélectionneur des Aigles, avec nos confrères d'Africa Sport 24.
On est ici pour une étape dans notre route de qualification. On sait que Mozambique, c'est pas une équipe faible, c'est une équipe forte, qui sont deuxième dans leur qualification pour la Coupe du Monde. Guinée-Bissau est aussi deuxième dans leur groupe. Ce sont des opposants très forts, mais on veut qualifier. On peut qualifier avec une victoire ici ou un match nul 2-2, ça va être suffisant pour être qualifié maintenant. Ça veut être le meilleur. Et les joueurs qui sont là sont très fiers, ils sont prêts et l'atmosphère est bien. Et j'espère qu'il n'y a pas de blessures les prochains jours, qu'on est prêt pour affronter une très bonne équipe comme Mozambique. Mais j'ai pas de doute de ça.
Il n'a pas de doute, Tom Sanfitz. Mali-Mozambique, on l'a dit, finale du groupe. Est-ce que les Bissau-Guinéens peuvent vraiment encore y croire? En tout cas, les Maliens, on attend évidemment un résultat au Mozambique et une qualification vite.
Ouais, ça va pas être simple. Hein. Enfin, bon, j'ai pas trop de crainte pour la qualification, mais le Mozambique, c'est une équipe qui, lors des éliminatoires Coupe du Monde, montre de belles choses. Ils ont battu la Guinée, notamment, dernier quart de finaliste de la Coupe du Monde. Il y a de la qualité. La Coupe du Monde, j'ai dit.
Ils étaient revenus lors de la dernière CAN après 6 phases finales manquées. Ils avaient été sortis au premier tour, mais ça veut dire quand
même
que ça...
En produisant du beau football.
1-1 à l'aller, hein, quand même.
Et ils avaient éliminé le Ghana aussi.
Et il y a quelques joueurs de qualité. On parlait tout à l'heure des têtes gabonaises, mais moi, il y a un joueur que j'ai découvert avec le Mozambique, c'est Jenny Katamo, là, qui est rentré la dernière fois contre Manchester City, qui a été à l'origine d'un pénalty, un ailier. Explosif.
Super joueur. Portugal, ouais.
Il n'y a pas que lui hein, dans cette équipe. Il y a Langa aussi à droite que j'aime beaucoup qui se projette. Il y a le capitaine Domingos là.
Clésio Boké, Domingos. Il y a des bons joueurs.
Il y a match pour moi. Alors évidemment, le Mali a plein régime, c'est plus fort. Mais attention.
Au match aller, il y avait eu un partout entre les deux équipes. Ouais. Bissouma et Katamo avaient marqué.
On va dire que le Mozambique est sur une bonne dynamique.
C'était le sommet du groupe. Maintenant, si les Eswatini bat la Guinée-Bissau, les deux seront qualifiés quoi qu'il arrive.
Oui, tout ça se passe.
Ça semble quand même très très bien parti pour les Mozambiques et le Mali dans ce groupe.
Oui,
bien sûr, et là encore, shérif, oui, ce serait logique. Et les Maliens, c'est un football enchanteur. On aime bien voir jouer les Maliens jusqu'à ce qu'ils se prennent les pieds dans le tapis, comme par exemple en quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Ils étaient quart de finaliste en 2024, ils avaient été huitième de finaliste en 2019-2021. À chaque fois, ce sont des déceptions parce que c'est un groupe, c'est une équipe. En début de CAN et après le premier tour, on les voit bien plus beaux qu'ils ne sont à l'arrivée. C'est-à-dire on les voit au moins en demi ou en finale.
Un grand pays de football, mais qui déçoit toujours. Un peu les désillusions. Non, mais je suis content du retour de Bissouma, parce qu'il n'était pas entièrement titulaire. Enfin, puisqu'il a été autour de 2 buts dans les matchs précédents.
Ouais, Bissouma, c'est le patron maintenant.
Ouais. Voilà. Et il avait été un peu écarté en début de saison à Tottenham, et là il revient. Et puis,
mais c'est un super joueur.
Oui, il a eu des problèmes d'hélium. Il avait une histoire, on l'avait vu dans une vidéo.
Je vois ce que tu veux dire.
Les sacs d'hélium. Non.
Les ballons, c'est le fléau des joueurs de football.
Donc, c'était une sanction disciplinaire, mais aux yeux de Postecoglou, c'est le. c'est un incontournable au milieu.
Non, non, c'est pas trop.
Le Mali, ce que disait Cédric Canté, un ancien illustre international et consultant, de Canal, il disait que c'était les qualités et les défauts du football d'académie, c'est-à-dire que ça joue bien, ça récite bien ses gammes, on voit du beau football, c'est
ça
plaisant, mais quand il faut du mental et un petit peu...
De niaque,
c'est de la folie, c'est trop gentil.
On l'a vu en quart de finale à Moitié face à la Côte d'Ivoire.
Un contexte difficile, là, les joueurs ne répondent plus présents. Je pense qu'à une époque, ils étaient inhibés par un entraîneur comme Magasuba, qui était un peu un gourou. Et maintenant, on va voir avec Senfit, qui est un peu plus pro. Il y a moins de décalage générationnel entre lui et les joueurs qu'à l'époque de Magasuba. J'y crois. Et puis ça change. C'est pas un francophone à la base.
Il y a eu Eric Schell, hein, entre les deux.
Oui, il y a eu Eric Schell qui a apporté quelque chose la préparation des matchs, mais qui a été jugé à tort ou à raison un peu limité sur certains points. Dans la progression du jeu, est-ce que Senfit va être le bon compromis? On verra, mais moi je pense que ce qu'il a fait en Gambie est assez prometteur pour le Mali.
La Gambie justement, tiens, passe décisive.
Ah, voilà.
Comores Gambie au programme également ce vendredi dans un groupe A de feu où tout le monde a sa chance. On en a parlé hier, la Tunisie bof bof hein, en ce moment, mais en tête. Suivent Comores à un point derrière et Gambie encore un point derrière. Madagascar n'est pas non plus tout à fait éliminé. Comores Gambie, y a peut-être la place pour au moins un des deux, peut-être les deux. Petite pièce sur les Comores.
Les Comores. Oui. C'est,
Comores.
Je les ai vus en double confrontation. Alors, je trouve que la Gambie a une baisse un petit peu. Ils avaient été top 8 de la CAN au Cameroun. Ça a été plus compliqué en Côte d'Ivoire, même s'ils ont montré quelques bonnes prédispositions. C'était une fin de cycle avec Tom Senfit, dont vous parliez il y a quelques instants, qui est maintenant sélectionneur du Mali. Non, mais moi, j'ai vu les Comores face à la Tunisie. En fait,
4 points, ils ont pris.
Ouais. Et puis, c'est une équipe qui a un jeu de transition, qui est une équipe moderne, en fait, qui a un vrai jeu de transition avec des ailiers qui vont très vite, qui sont...
Selemani,
et puis celui qui est de l'autre côté, qui est très bon.
Le joueur de 3, dont j'ai oublié.
Ouais, moi aussi, m'est sorti de l'esprit, mais il est excellent.
Tu peux vérifier. Il y a Miziane Maolida qui est rentré, il y a Zaïdou Youssouf qui arrive, il y a surtout Warmed Omari
derrière,
qui apporte.
C'est sérieux.
De l'épaisseur.
Mais bien sûr, c'est sérieux.
En défense.
C'est plaisant à regarder.
Elle est coachée par Stefano Cousine, donc l'Italien, qui avait eu et francophone, qui avait eu de bons résultats, enfin qui avait fait de bonnes choses avec le Soudan du Sud. C'est assez prometteur. Moi, je pense qu'ils vont passer. Pour la Gambie, c'est un peu plus difficile.
Oui, les lendemains de Belkane au Cameroun sont un peu plus compliqués.
La Gambie dépend des résultats des autres. Donc, elle n'a pas le... il faudra un concours de circonstances favorables. La Comore a le luxe, entre guillemets, d'avoir son destin entre ses pieds, si je puis dire. Même si, malheureusement, son stade n'est plus homologué, donc elle perd l'avantage de pouvoir. Et là, je pense qu'elle aurait été plus forte encore.
Comores, Gambie, je suis en train de chercher l'horaire demain. Gambie-Comores, pour être exact, ce sera à 19h, temps universel. Il nous reste quelques minutes pour parler d'une dernière équipe mal en point. Là, je ne vous demande pas, vous l'avez entendu, bien sûr, le Ghana, pas encore entre quatre planches de sapin, mais pas loin.
Le joueur que je cherchais tout à l'heure, Olivier, c'est important pour nos
étudiants. Oui, les de 3.
Celui qui joue à 3, bien sûr.
Voilà, excusez-moi.
On ne voulait pas le dire parce que vous êtes pour Reims, donc il faut pas
à la peine
parler
de 3.
Rafiki Saïd, très bon joueur.
Angola, donc Ghana, l'Angola est déjà qualifiée. Les Black Stars, 2 points en 4 matchs. Ils sont au bord du gouffre, en grand danger de non-qualification pour la première fois depuis 20 ans. Entre 2008 et 2017, écoutez ça, 2 finales et 4 demi en 6 CAN. Depuis 2019, 8e de finale, 2021 et 2024, sortie dès le premier tour. Bah, la chute se poursuit, honnêtement. Il y a 99 chances sur 100 pour qu'il reste à quai.
Et puis voilà. Ça sanctionne en fait une dégringolade qui vient de loin. C'est pas un accident.
C'est plus les frères Ayou qui sont responsables.
Là, bon, on peut le dire pour certaines équipes. Là, c'est le Ghana. Ça fait longtemps. Dans les années 2000, le Ghana a gagné la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Imaginez, on est en 2009.
Oui.
À l'époque, c'est une équipe pleine d'avenir. L'année suivante, le Ghana n'est pas loin d'aller en demi-finale de Coupe du Monde. Et c'est une équipe qui plaît, qui a un beau football.
Extraordinaire contre
la France. Face à l'Uruguay, la fameuse main de Suarez et les ratés d'Asamoah Gyan.
Le match contre
l'Allemagne
surtout.
Qui a un esprit d'équipe qui est très soudé et qui joue bien au foot. Et Ensuite, ils ont un petit peu capitalisé là-dessus. Et depuis que cette génération a raccroché, il n'y a plus grand-chose, en fait. Et aujourd'hui, on voit le Ghana aller chercher des joueurs binationaux qui jouent en D2 allemand, ce qu'ils n'auraient jamais fait il y a 10 ou 15 ans.
Alors voilà,
donc, à un moment, on paye ce qu'on sème. Hein. On récolte ce qu'on sème. C'est quand on ne travaille pas, ben, on récolte des mauvais résultats.
C'est la question que je voulais poser par rapport à la politique du foot, le côté académique du Ghana. C'est tombé en désuétude. Que donne le championnat? Que donne le réservoir local?
Il y a un championnat.
Il y a un championnat.
Joue,
ouais, mais le réservoir, y a des grands clubs, mais qui n'ont plus les résultats qu'ils avaient il y a 20 ou 30 ans.
La Chanti Kotoko et compagnie.
Voilà, ouais. En compétition africaine.
Il y a des binationaux qui viennent par défaut.
Voilà, ouais. Et alors il y en a qui... Bon, certains binationaux, si c'est Semenyo de Bournemouth, c'est plutôt un bon joueur.
Pas mal.
Mais lui, il aurait rêvé d'être international anglais, ce joueur-là. Djikou, c'est un bon joueur, mais pareil, je pense que dans un coin de sa tête, il aurait espéré être international tricolore.
Iñaki Williams, sa greffe n'a jamais pris.
Voilà, Iñaki Williams, c'est un super joueur, vraiment. Il a battu des records de régularité en Liga, mais en équipe nationale, ça donne rien. Mais vraiment, si vous le voyez, il est neutre, il est transparent. Il est à côté des autres, pas avec eux. Et qu'est-ce qui reste au Ghana? Il y a des joueurs vraiment brillants. Moi, j'adore Joseph Painsil, j'adore Mohamed Kudus, mais le tout ne fait pas une équipe. Et à la fin, il y a en plus eu des erreurs sur le choix des sélectionneurs, le retour de Rajevac.
Et là, il y a des
ensuite,
forfaits,
des joueurs qui viennent pas. Mais ensuite, Otto Addo retourne à Dortmund. Yuton arrive, Yuton s'en va, Otto Addo revient, on ne comprend pas trop en fait, il n'y a
déjà
pas de continuité.
Ouais, sur le banc, ouais.
Et à un moment, on paye l'addition parce que là, ils sont tombés malheureusement pour eux sur l'Angola qui reste sur une super CAN,
ouais.
Qui est l'équipe un peu qui monte en Afrique,
ouais,
avec l'Afrique du Sud.
Quart de finaliste de la dernière CAN battue par le
Sud,
Nigeria.
En Afrique australe, il y a aussi l'Angola, donc à un moment, ça ne suffit
c'est
pas.
Défaite contre le
ils
Soudan.
Sont à 5 points du Soudan qui est peut-être aujourd'hui en train de plier l'affaire hein, face au Niger, au stade de Kégué à Lomé. Avant de refermer cette page Afrique, on entend quand même Gideon Mensah, le défenseur latéral
qui a fait
de
un match magnifique au Vélodrome.
Voilà, de l'AJ Auxerre. Forcément, on ne va pas nous dire le contraire. Il y croit.
On n'est pas bien dans la tête parce qu'on a fait la dernière match. On a essayé de gagner des matchs, mais on a fait match nul ici à Accra et on a joué en Libye. On a perdu le match 2-0. Donc en ce moment, on est un peu chaud dans la tête. Donc j'espère qu'on va faire quelque chose. C'est toujours possible. Si on peut gagner les deux matchs, on prend les 6 points. Après, on va regarder tout ce que le Soudan et Angola ils vont faire aussi. Après, c'est le foot. Hein. C'est le foot parce que ce n'est pas toujours en bon droit. Et des fois, tu perds le match, des fois, tu gagnes le match. Ce n'est pas parce qu'on a perdu le match, donc on va dire on n'est pas prêt et tout ça. On est toujours prêt. Si demain, on gagne les 6 matchs et on va à la CAN, on va faire quelque chose. Si on ne voit pas, on enchaîne encore.
On enchaîne, ben non, avec quoi? Si jamais on va pas, on enchaînera avec les éliminatoires et les qualifs pour la Coupe du Monde. C'est quand même pas gagné, mais on salue son optimisme à Gideon Mensah, qui était interrogé par, bien sûr, Tété Hadji du côté d'Accra. On a envie de dire, on croise les doigts pour eux, mais en même temps, s'ils n'y vont pas, il n'y a rien à faire d'autre. Le Soudan l'aura mérité. Voilà pour la page Afrique. On en reparle demain, bien sûr, dans le Café des Sports, parce que ça va jouer jusqu'à mardi. Et on le rappelle, 13 tickets sur 24, il en reste 11 à attribuer dans les jours qui viennent. Allez, on rentre en Europe avant de filer en Amérique du Sud. À 73 ans, il avait juré qu'on ne l'y reprendrait plus. Et puis non, la maman a dit oui, alors il rempile. Dan Friedkin, propriétaire texan de l'AS Rome, et son fils Ryan ont opté pour cette solution et nommé donc Claudio Ranieri entraîneur. Il y sera le troisième de la saison après Daniele De Rossi, limogé en septembre, et Ivan Djuric, écarté lui dimanche. On rappelle, la Roma est 12e à 12 points d'une qualification en Ligue des Champions. Pour Ranieri, c'est le troisième passage à la Louve, où il avait aussi commencé sa carrière de joueur dans
tout
les années 70.
73-74.
Shérif, c'est une folie, c'est bien joué, qu'est-ce qu'on en dit?
Alors, si on reste dans le domaine de la folie, déjà, il y a eu le limogeage au bout de 4 matchs de De Rossi. On va rappeler quand même qu'il a apporté la Roma à la 6e place la saison dernière. Il y a une sorte de panique. On a mis Djuric intérimaire. Et là, on va chercher un autre intérimaire parce qu'évidemment, Ranieri ne
oui.
s'est pas engagé pour 15 ans, hein, évidemment. Alors, ça se trouve, c'est juste un intérim qui va durer jusqu'à l'hiver, c'est-à-dire en janvier, on va prendre encore un entraîneur. Mais fondamentalement, vous avez parlé de folie. Et d'ailleurs, ça a été très mal vécu par les joueurs et les tifosi. le limogeage express au bout de 4 journées de De Rossi, qui pour moi faisait du bon boulot.
Matteo Cioffi, qui était en direct mardi, car nous avons longuement parlé de la Serie A, avait tenu à rappeler effectivement que les problèmes de la Serie A venaient de la Roma, pardon. C'était depuis qu'on avait décidé d'écarter De Rossi. Vous en pensez quoi, vous messieurs, du retour de Claudio Ranieri? On rappelle qu'il a entraîné Monaco de 2012 à 2014, Nantes 2017-2018, et qu'il avait pris sa retraite après avoir sauvé Cagliari.
Pour moi, Ranieri, ça reste Leicester, c'est-à-dire le plus grand exploit de l'histoire des 5 grands championnats des 30 ou 40 dernières années. Leicester, promu en Première Ligue, qui gagne le titre dans la foulée avec une équipe d'inconnus, entre guillemets, qui ne sont plus aujourd'hui, en jouant le contre. Il sort de sa retraite, il est romain, c'est son club, ça sera son troisième passage, et il intègre le cercle fermé des coachs qui ont continué à exercer après 70 ans bien sonnés, comme un certain, notamment Trapattoni en Italie. Donc, on lui souhaite que ça soit aussi bien. Maintenant, c'est une mission sauvetage. Donc,
je ne crois pas que ça va durer, Patrick.
Je ne pense pas non plus, mais c'est une pige et il va jouer les pompiers de service dans un club mal en point, et c'est aussi avec un directeur sportif français, d'ailleurs, Florent Gisolfi.
Qui est mis sur le côté, puisque ce n'est pas lui qui a choisi...
L'équipe,
Gisolfi,
c'est un choix de
Gisolfi,
il a fait le recrutement à l'intersaison, il y a eu des ratés aussi, bon, pas de sa faute forcément.
Gisolfi, lui, il a choisi l'équipe.
Voilà, donc en partie l'équipe, donc mais ça renvoie quand même l'image d'une énorme Rome, on dirait. C'est une instabilité.
Troisième entraîneur depuis le début de la saison.
En fait, t'es entraîneur, c'est une équipe dangereuse, quoi. Je veux dire, on se croirait dans certaines contrôles.
Mourinho avait tout le mal qu'on l'a dit lui, il avait stabilisé, il a gagné la Ligue Europa Conférence. Mais De Rossi, je pense qu'il avait bien repris les choses en main. Et puis, bon, en coulisses, bon, alors il y a la belle histoire, Ranieri et tout ça, mais en fait, Friedkin, le président américain, lui penchait soit pour Lampard, à mon avis, ça aurait été une catastrophe, ou soit un choix plus avisé, c'est Terzic, l'ancien de...
Oui,
de
ah oui. Je suis d'accord.
Mais c'est Ranieri, qui était déjà venu en septembre.
On va être cynique, ça coûte moins cher.
Il était venu en septembre 2009, il avait failli remporter le titre, remporté finalement par l'Inter, il avait été limogé en 2011, il était revenu en mars 2019, en tant que pompier déjà, et avait qualifié le club pour la Ligue Europa, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Encore une fois, on ne parle pas de descente, on parle simplement de 12e place indigne d'un club comme la Roma.
Ils sont 12e, on va rappeler, ils sont 12e.
Oui, c'est ce que je viens de dire.
C'est pas non plus... c'est pas bon, mais c'est pas catastrophique.
Non. Mais enfin,
La Roma doit se battre pour être européenne
et en Ligue des Champions. Oui, elle est à 12 points.
En fait,
pour
ils sont un peu en train de faire de la saison qu'a fait l'OM l'an dernier.
Voilà, oui, Patrick qui tombe sur l'OM comme par hasard.
Oui, il est temps de passer à autre chose. Allez, tiens, puisqu'il influence, allons-y.
Connu sous le pseudo de Sprint, un streamer de 24 ans à la quinzaine de millions de followers a été titularisé dans le 11 de départ du Deportivo Riestra. Aligné en attaque, Sprint a joué à peine plus de 78 secondes. Il n'a pas touché le moindre ballon.
Applauso para Sprint, entra Fernandez.
Quelle voix, ce David Finzel. Entre incrédulité, réaction virale et indignation, le monde du football argentin essentiellement a fortement réagi mardi à la titularisation la veille pour à peine une minute. On a décortiqué ça avec Laurent Salerno.
Alors
précisément, il a joué 5 secondes avant qu'il y ait un tacle, que le tacle entraîne une intervention des soigneurs. Tout ça nous a amené à 78 secondes et au terme de cette intervention, il y a un changement qui a été opéré. Il a été remplacé, ce qui veut dire que c'était vraiment, vraiment pour le buzz. Il y en a marre du buzz. Bon, enfin, ça, c'est une question de génération. C'est mon avis, c'est pas forcément le vôtre. Un influenceur sans aucun vécu footballistique, dois-je le dire. Donc, c'était quand même un match de première division, et ça n'était pas n'importe lequel. Alors, vous l'avez entendu là, hein, il a 24 ans, Ivan Bouadjerouk, plus connu sous le nom de Sprint. Il a été titularisé dans le 11 de départ du Deportivo Riestra, promu cette saison, c'est un club de la banlieue de Buenos Aires, promu en Primera Liga, et c'était un match contre le leader, Vélez Sarsfeld. C'est quand même incroyable, il n'a pas touché le moindre ballon, score final un partout, bon voilà.
Attends, en plus on le rentre alors dérive. Qu'il y a un score, c'est serré en plus.
Ils sont pas sérieux. Non, il n'est pas rentré, il était titulaire, il n'a pas touché un seul ballon.
Ouais,
voilà, il était titulaire, c'est vraiment le buzz pour le buzz. Et alors, c'est ça qui nous amène à en parler.
Alors, deux choses. La première, c'est que normalement, un joueur qui rentre, c'est un championnat quand même officiel, il faut une licence. Avait-il sa licence?
Alors justement,
les licences, c'est en début de saison.
Il a dû être mis en règle, sinon c'est pas possible.
C'est en début de saison, les licences.
Alors justement,
la fédération argentine a demandé
à son tribunal d'éthique d'enquêter sur d'éventuelles conduites susceptibles de nuire, je cite, à la réputation d'intégrité du football argentin.
Il faut l'enquêter. On joue, y compris dans la ligue, c'est autre chose en fait, l'enquête.
C'est sur le fait que peut-être il y a eu des paris en ligne.
Voilà.
Attendez.
Paris sur l'entrée de cet influenceur dans l'équipe.
On plante le décor,
parce que l'enquête a été ouverte. Puisque un site de paris en ligne a offert lundi des paris juteux sur le fait que Sprint, comme vous voulez, débuterait ou non le match. Et une enquête a été ouverte aussi. Il y a deux enquêtes. Il y a l'enquête de la Fédération Argentine et puis une enquête sur spécialisée dans les jeux de hasard.
On va attendre ce que donnent ces deux enquêtes. J'avais une hypothèse. Est-ce que son entrée a été éventuellement filmée, vidéo, cinéma?
Bien sûr. Évidemment.
Non, mais...
Si, on a vu les images, on a décortiqué tout ça avec Laurent Salerno, je vous le confirme.
Est-ce qu'il va y avoir ce qu'on appelle un follow-up, une poursuite, c'est-à-dire avec soit un film publicitaire avec ce sprint qui rentre sur le terrain, ou alors même un vrai film de cinéma.
Il y a des enquêtes qui sont... Je pense qu'ils vont se calmer, ils ont fait le buzz. Je vous dis ce que je sais.
Non, mais je suis d'accord. Mais par exemple, il y a souvent des réalisateurs qui aimeraient inclure une scène de football avec, je ne sais pas, par exemple, un Depardieu ou alors...
Il n'y aura pas, puisqu'il n'a pas touché un ballon. Passons à autre chose. Le poste de Riestra annonçant la présence de Sprint dans le 11 de départ a enregistré 3,4 millions de vues au lieu de plusieurs milliers pour un match normal du club. Le débat, en fait, c'est de dire, est-ce qu'on n'est pas vraiment dans la dérive des dérives? Les Marocains, lors de la dernière CAN, on le rappelle, dans le staff, avaient accrédité deux influenceuses qu'on voyait en tribune de presse, qui prenaient donc la place de journalistes qui ont une carte de presse, qui ont été formées, dont c'est le métier, pour deux jeunes filles qui étaient en robe de soirée.
Olivier.
Laissez-moi terminer. En robe de soirée et qui faisaient des selfies et rien d'autre. Il y a une vraie dérive. On est tous d'accord ici pour le dire. Et c'est un vrai danger pour le métier de journaliste. Et c'est pas forcément une grosse réussite pour le foot, non?
Ah, ça fait parler d'un club dont personne ne parlait, en fait, surtout.
Ben oui, c'est le buzz.
C'est le buzz, et c'était le but recherché. Tout simplement. Après, logiquement, le terrain doit être sanctuarisé et rester aux joueurs.
Alors,
puisqu'il y a déjà du business partout, donc si on en met en plus des sponsors maillots sur le terrain, ça va devenir n'importe quoi. En fait.
Alors Olivier, je vais prolonger votre propos. Donc vous avez vu des influenceuses dans la corbeille VIP.
Mais on les voit en zone mixte, en zone d'interview. Ça fait des selfies avec les joueurs pendant que des journalistes essayent eux d'avoir ces joueurs pour faire des interviews.
En zone mixte.
On mélange tout.
La prochaine étape, ce sera évidemment le banc de touche. Et il y a déjà eu des stars qui se sont... Et c'était logiquement que dans cette dérive, on en arrive justement à l'entrée sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? On commence en tribune VIP, ensuite en tribune officielle, banc de touche.
Je voudrais avoir un mot de Nabil.
On dévalorise le
et donc vous savez ce que c'est que les réseaux sociaux, vous êtes très présent, donc voilà, votre parole est intéressante.
Je vois qu'il y a une attitude marketing, c'est-à-dire qu'à travers un influenceur, on élargit son audience, mais c'est peut-être un calcul court-termiste parce qu'on dévalorise son produit en quelque sorte. Là, ce que vous venez de me dire, moi je trouve ça complètement surréaliste, quoi, de faire jouer un gars qui n'est pas un joueur professionnel dans un match face au leader. Mais on marche sur la tête. Mais moi, je suis la FIFA ou la Confédération Argentine, là. Je les appelle, je leur dis, mais vous me refaites ça, on vous exclut ad vitam aeternam. C'est n'importe quoi, c'est pas le football, c'est pas du football.
Voilà qui est dit. Pendant ce temps-là, le club allemand de Sankt-Pauli a décidé, lui, de se retirer du réseau social X parce qu'il trouve que ça attise trop la haine. On a donné notre point de vue, on en reparlera. À demain.